19h37, votre grand journal du soir se poursuit avec vous, Philippe Vandel.
Suite de la demi-heure culturelle de ce 18-20 avec Vanessa Zah qui va nous parler du Mont-Saint-Michel. Nicolas Caro avec nous, on va parler de Robinson Crusoe. Diane Chénouda, on va parler pas tout à fait culture, quoique c'est de la culture, mais on va rigoler. Et Bernard Werber avec nous, romancier qui vient de publier la somme de l'encyclopédie du savoir relatif et absolu. Je le disais, vous avez une manière totalement différente de voir les choses. Et grâce à vous, j'ai découvert la règle du micro-pénis. Ce n'est absolument pas une pratique sexuelle. Vous pouvez garder les enfants près du poste. Quand on est écrivain, raconter, c'est une manière de se débarrasser des critiques littéraires.
Waouh. Alors, c'est Michael Crichton, qui est donc l'auteur de Jurassic Park, et de Westworld aussi d'ailleurs, et qui avait reçu une très mauvaise critique d'un monsieur qui s'appelait Michael Crowley, dans un journal américain. Et du coup, il avait mis comme personnage dans son roman suivant, un type qui s'appelait Michael Crowley, qui était pédophile, pervers, dégueulasse, qui puait, surtout qu'il avait une toute petite bite, et il en a fait un personnage qu'il a nommé, qui était exactement décrit comme le vrai. Et quand il y avait un début de procès qui a voulu se lancer, et finalement il a été établi et admis que, vu que les critiques ont le droit de dire du mal les auteurs ont le droit de se venger en créant des personnages ridicules correspondant aux critiques dans leur roman. C'est-à-dire chacun utilise son outil de média pour s'exprimer.
Nicolas Caro qui ouvre des grands yeux. Est-ce qu'il y a déjà eu,
parce que c'est pas la même répercussion. Victor Hugo avait fait ça avec Thénard, qui était un député contre lui, qui se battait contre lui pour une loi,
d'où,
et il l'a appelé Thénardier. Ouais. Et donc le type est resté dans l'histoire comme Thénardier, c'est-à-dire l'incarnation du mal, en fait.
Oui, mais il l'a immortalisé en même temps. C'est-à-dire que Thénard aurait été oublié, mais non, on se souvient de lui.
Page 472, Bernard Werber, vous n'êtes pas tendre avec le système médiatique. Vous expliquez que l'avenir est aux acteurs, surtout à la télé, et je vous lis. Dans toutes les professions, les acteurs ont gagné du terrain. Un peintre bon acteur est capable de convaincre qu'une toile monochrome est une œuvre d'art. Un chanteur bon acteur n'a pas besoin d'avoir de la voix s'il interprète convenablement son clip. Étrangement, vous ne parlez pas des écrivains. Est-ce que vous jugez bon acteur ?
Ah, moi, je suis un très mauvais acteur. Parce qu'en plus, je n'ai pas de personnage.
J'ai donc un bon écrivain, c'est ça ?
J'ai pas un déguisement. Je fais pas le buzz en insultant les gens. Donc, je suis un très mauvais acteur. Mais je crois que c'est la réussite de Reagan qui m'a fait comprendre ça. C'est-à-dire qu'un type se retrouve à la tête du plus puissant pays alors qu'il est acteur. Ça veut dire qu'en fait, tout ce qu'on demande à nos chefs et aux gens importants, c'est de faire un personnage rigolo. Et c'est aussi la réussite de Trump, à mon avis.
Et dans les émissions littéraires ? Et dans les talk-shows ?
Je pense qu'il y a des gens qui écrivent bien les bouquins, il y a des gens qui passent bien à la télévision, et que c'est pas forcément les mêmes.
C'est évidemment à ça que je pensais. Est-ce que vous aimez aller chez Ruquier ou chez Ardisson, par exemple ?
La fois où j'étais passé chez Ruquier, le journaliste n'avait pas lu le livre, il avait fait semblant de l'avoir lu, mais je m'en suis rapidement aperçu, et je l'ai signalé. J'ai dit, je vois que les pages sont collées, vous êtes en train de l'ouvrir en direct, et ça, malheureusement, ça a été coupé, donc je pense qu'en effet, il jouait le critique un peu, comment dire, qui n'avait pas aimé le livre, alors qu'il ne l'avait pas ouvert, donc c'est un travail de comique, en fait.
Tout est dans le malheureusement. Nicolas Caro, vous étiez fan, vous m'avez dit, vous êtes fan de Bernard Werber. Ouais. Ce livre-là, vous l'avez lu déjà quand il était sorti, les premières éditions.
Oui, je suis fan de Werber depuis longtemps, depuis Les Fourmis, depuis Les Thanatonautes. Et un jour, on m'a offert, je sais pas, 12-13 ans, l'encyclopédie du savoir relatif et absolu, un tome. Là, ils sont tous réunis, mais à l'époque, il y avait un tome. Et dedans, notamment, j'étais tombé là-dessus, à l'entrée, insulte, il y a l'étymologie de idiot, de stupide et de imbécile. Alors, imbécile, c'est préfixe 1, 100, et de bacillum, bâton, et signifie sans soutien. Tiens, sans bâton. L'imbécile est celui qui ne marche pas d'une manière assurée, car il ne cède pas de béquilles, mais au moins, il ne s'appuie sur personne. En fait, un imbécile est une personne autonome qui n'utilise pas de soutien extérieur pour avancer. Je m'étais dit, c'est génial, prochaine fois que quelqu'un me traite d'imbécile, je vais lui sortir ça va le calmer. Mais en fait, à 12 ans, personne ne vous traite d'imbécile, c'est beaucoup plus grossier.
Idiot, ça signifie qu'il est différent des autres, comme un idiotisme dans une langue. Et stupide, c'est-à-dire qu'il s'étonne de tout, ce qui veut dire qu'il est curieux. Donc, la plupart des insultes sont en fait
des compliments. Oui.
C'est une phrase de Gide, ça. Que ta vision du monde soit à chaque instant nouvelle, le sage est celui qui s'étonne de tout. Nicolas Carreau, cette semaine, vous avez choisi un grand roman populaire, justement.
Oui, le genre de livre que tout le monde, absolument tout le monde connaît, sans forcément l'avoir lu. Mais ça, c'est pas grave, c'est ce qu'on appelle un mythe littéraire, Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. Je vous en parle parce qu'il vient d'être republié à la Pléiade. C'est un tirage spécial disponible depuis hier. Robinson Crusoe a été publié en 1719. Daniel Defoe est considéré comme l'un des premiers maîtres du roman moderne. Et pourtant, au départ, personne ne sait que c'est lui qui a écrit cette histoire. Le véritable titre de Robinson Crusoe, je vous le lis, vous allez voir qu'on a le sens de la concision à l'époque. La vie et les aventures étranges et surprenantes de Robinson Crusoe de York, marin qui vécut 28 ans sur une île déserte sur la côte de l'Amérique près de l'embouchure du grand fleuve Orénoque à la suite d'un naufrage où tous périrent à l'exception de lui-même, et comment il fut délivré d'une manière tout aussi étrange par des pirates. Et ensuite, écrit par lui-même.
Écrit par lui-même ?
Et ouais, parce que l'éditeur faisait passer ce roman pour un témoignage authentique. Je vous rappelle l'histoire, nous sommes au XVIIe siècle en Angleterre, un jeune garçon de bonne famille, Robinson, donc, est tenté par l'aventure, mais son père lui dit, voilà, j'ai de l'argent, donc tu en as. Si tu es sage, que tu restes tranquille, tu seras sinon heureux, au moins à l'abri du besoin pendant toute ta vie. Mais si tu cèdes à ta curiosité, à ton penchant pour la prise de risque, alors je te prédis que tu seras accablé de malheur et que ça finira mal.
Mais évidemment, Robinson n'écoute pas son père.
Eh ben non. À force de parcourir le monde à la recherche de l'aventure, il fait naufrage et il se retrouve seul sur son île déserte, la fameuse. La suite, on connaît. Il y restera donc 28 ans. Il se construit sa petite vie sur l'île. Il reconstruit même carrément la société, en fait, humaine sur son île. Il trouve d'abord une caverne, puis se débrouille pour cultiver la terre, élever des chèvres. Il va aussi affronter toute une série de dangers. Ça, c'est pour le roman, qui n'est donc pas un témoignage authentique. Mais Daniel Defoe s'est effectivement inspiré d'un personnage réel. Il s'appelait Alexander Selkirk. C'était un voyou. Il a pris la mer pour fuir la justice. Il s'est engueulé avec le capitaine de son bateau et on l'a laissé sur une île au large du Chili. Il y est resté 3 ans seulement, mais quand même, pas 28. Non. Il a fini par être récupéré par un navire en rentrant. Il a raconté son histoire et Defoe s'en est emparé. Et voilà, au passage, l'île sur laquelle Selkirk a vécu s'appelle aujourd'hui l'île Robinson Crusoe, où Robinson n'a jamais mis les pieds parce qu'il n'existe pas. Et l'île d'à côté s'appelle l'île Alexander Selkirk, sur laquelle Alexander Selkirk n'a jamais mis les pieds parce que lui, il était sur l'île Robinson Crusoe, qui s'appelait Masitéria à l'époque, à 600 km du Chili. Voilà, je sais pas,
j'ai compris, clair. C'est les 3 mousquetaires qui étaient 4.
En tout cas, je vous conseille cette Pléiade. Si vous cherchez un cadeau de Noël, on y trouve 200 illustrations et une préface passionnante.
Juste un mot, Robinson Crusoe et la Pléiade, c'est écrit comment ? La traduction date de quand ? C'est une nouvelle traduction ?
Alors ça, je ne sais pas, mais c'est une très bonne question, parce que c'est assez passionnant les traductions, mais je ne sais pas si c'est la fameuse traduction initiale ou pas.
Parce qu'il y a une traduction absolument géniale, récente, au seuil de Don Quichotte, alors que les autres sont un peu difficiles à lire, elles sont dans un français très ampoulé, qui lui-même tient du vieil espagnol. Enfin, on verra ça pour la prochaine fois. Vous êtes fan de Robinson, des histoires d'île ? Vous parlez de l'Atlantide de Bernard Werber dans votre livre.
Ah oui, je suis un fan de l'Atlantide parce que j'ai fait des régressions, en tout cas j'ai eu l'impression de faire une régression dans laquelle je me suis retrouvé dans cette île. Et la masse de détails m'a servi de matière romanesque pour la boîte de Pandore.
Qu'est-ce que vous appelez une régression ?
Vous fermez les yeux, vous visualisez un escalier qui mène à votre inconscient, vous visualisez un couloir avec des portes de toutes vos vies antérieures et vous en ouvrez une et vous regardez ce qui se passe. Après, soit vous y croyez, soit vous y croyez pas, soit ça marche, soit ça marche pas. Moi, quand je le fais, ça marche, donc j'ai plein d'histoires qui arrivent avec beaucoup, beaucoup de détails, dont une qui s'est passée en Atlantide, que je raconte dans la boîte de Pandore.
Vous pouvez pas nous le dire, c'est en vente, mais pour les gens qui n'iront pas l'acheter, allez, faites-nous ce mini cadeau.
Alors, la première surprise que j'ai eue quand je me suis retrouvé en Atlantide, c'est l'âge du personnage que j'étais, qui avait 821 ans.
Ouais.
Là, et en 821 ans, c'est amusant parce que je suis allé voir après dans la Bible, Adam et Mathusalem ont plus de 900 ans. Donc dans la Bible, les personnages sont censés vivre très longtemps. Donc l'âge et aussi un niveau de décontraction. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de pouvoir télépathique ou tout ce qu'on imagine sur l'Atlantide. Ils étaient surtout hyper cool. Et je me suis dit, j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi détendu que ce type que j'ai été, donc je suis censé avoir été il y a 12 000 ans.
Waouh. Nicolas Carreau, vous avez trouvé l'info.
C'est bien la traduction de Petrus Borel, donc le grand traducteur de Robinson Crusoe.
Qui remonte à...
Qui remonte, je ne sais pas, arrêtez vos cols.
Et maintenant, on va fermer les yeux, mais on ne va prendre aucun couloir. On va parler d'humour, on va retrouver Constance, on va retrouver Diane Chenouda et Vanessa Zah tout de suite après ça.
19h47, vous écoutez Philippe Bandel, c'est votre grand journal du soir.
Suite et fin de ce 18-20 culturel, on va retrouver Vanessa Zah qui est au Mont-Saint-Michel, Bernard Werber avec nous qui vient de publier La boîte de Pandore, c'est son dernier roman, c'est chez Albin Michel et toujours chez le même éditeur, Encyclopédie du savoir relatif et absolu, livre 1 à 11 et supplément, c'est pour dire s'il y a de la matière. Je me tourne vers vous, Diane Chenouda,
oui,
on va parler
Philippe.
D'une jeune femme, elle avait fait sensation en montrant ses seins à la radio, pendant une chronique dans une autre radio que la nôtre. Je parle de l'humoriste Constance. Et vous, vous avez vu son dernier spectacle, justement, Diane.
Oui, Philippe, alors elle n'a pas froid aux yeux, hein, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Constance, qui se demande encore aujourd'hui pourquoi ses seins avaient fait tout ce foin, tout ce toin-toin, surtout qu'elle les avait montrés le jour de la démission de Nicolas Hulot et qu'il y avait peut-être des choses plus importantes, lui semblait-il alors, ce jour à traiter que ses tétons. Bref, cet humour noir, explosif, qui est sa marque de fabrique, eh bien on le retrouve évidemment dans son nouveau spectacle qui s'appelle Peau pourrie, qu'elle joue au théâtre des Deux Ânes en ce moment, tous les mardis soirs et également en région. Alors ne vous fiez surtout pas à son air angélique, à sa blondeur et à son sourire d'ange. Non, Constance est féroce, très, très. Mais avec talent, elle campe une dizaine de personnages féminins, tous plus fêlés les uns que les autres. Ici, une nonne déjantée et très obsédée.
Tous ensemble, je vous propose de rendre gloire à notre père à tous, le pénis.
Voilà, alors là, autre personnage, une intello snobinarde et qui file, là encore, la métaphore érotique.
J'aime les mots. Tous les mots. Les courts, les longs, les sales, les durs. Depuis toujours, les mots me touchent énormément. J'adore avoir des mots plein la bouche. Et je prends un malin plaisir à élargir mon vocabulaire.
Dis donc, tout est à double sens. Et alors, je me suis laissé dire qu'elle croquait également très très bien les mères de famille. C'est ça, ce que vous m'avez dit.
Oui, oui, Philippe. Alors là, les mères de famille, vous savez, bien frustrées, bien névrosées. Hein, celle qui trucide son mari parce qu'il avait critiqué son Magimix. Alors, il faut le dire qu'il était odieux, hein, le bonhomme. Alors, c'était un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Puis celle, alors, qui, elle, est veuve, n'a plus de mari et qui pète les plombs, totalement débordée par sa marmaille. Une autre mère abusive, elle, qui terrorise son petit garçon jusqu'à l'absurde, le rendant coupable de tout. Un sketch, d'ailleurs, totalement glaçant. Écoutez ce que dit Constance de son spectacle.
Il y a plein de trucs pour faire rire les gens qui ont cet humour et déranger les gens qui n'ont pas cet humour. Je pense que c'est des gens, à un moment donné, qui ont fait des mauvais choix, qui se sont égarés, mais surtout qui s'entêtent à rester dans ces positions-là. Ce qui fait qu'ils développent des névroses, ils se vengent sur les autres. Sur scène, ce qui fait rire les gens, c'est les travers, c'est la mauvaise foi, c'est la méchanceté. Ah oui, mais moi, la comédie humaine, ça me passionne, en fait. Bah, d'ailleurs, dans le pitch du spectacle, c'est si tu veux rire de la comédie humaine, plutôt que de te flinguer, viens voir le spectacle.
Là, c'est un humour dérangeant, hein, mais servi par un jeu d'actrice parfait. C'est pour ça que c'est bien d'ailleurs. C'est très dessiné, très épuré, il n'y a pas de décor. Il suffit d'une perruque ou d'un changement de costume, d'un accent. Elle est assez irrésistible, je dois vous dire, en employée picarde, une employée de l'administration. Alors là, elle est assez terrible. Elle se glisse d'un personnage à l'autre comme ça, en un éclair. Elle étonne et détonne.
Merci beaucoup, Diane Chénouda. C'est à voir, redites-le.
Oui, alors au Théâtre des Deux Ânes, en ce moment à Paris, tous les mardis soirs jusqu'au 18 décembre. Et puis également, elle tourne en région, hein, puisqu'elle ne joue que le mardi à Paris, donc elle va aussi ailleurs.
Bernard Werber, vous êtes fan de rire. Au vrai sens du terme, vous l'étudiez sous votre scalpel, tel l'entomologiste, tel une sorte de Bergson.
Oui, alors...
Je veux dire, où je voulais en venir, oui. C'est que j'ai trouvé dans votre encyclopédie la recette chimico-cérébrale du rire.
Oui, ce qui se passe, c'est que c'est une information qui ne peut pas être gérée par le cerveau gauche, qui est le cerveau sérieux. Donc, il balance ça sur le cerveau droit, qui n'arrivant pas à le gérer non plus, décide de relâcher, de faire un effet de pression, comme si botté en touche. Et à ce moment-là, donc, il y a une éructation, il y a un système qui, en fait, qui est fait juste pour que le cerveau ne devienne pas fou. Mais pour que ça fonctionne, il faut que ça soit gênant. Si c'est pas gênant, le cerveau ne provoque pas ça. Et j'ai appris quelque chose une fois à la fin d'une de vos interviews. Vous m'avez dit, pour rire, faire rire, il y a trois phrases qu'il ne faut pas dire. La première, c'est « j'en connais une bien bonne ». La deuxième, c'est « vous allez rire ». Et la troisième, il ne faut surtout pas rire de sa propre blague une fois que c'est terminé pour enchaîner l'humour. Et ouais, je l'avais mis dans le rire du cyclope et je vous avais mis dans les remerciements pour ça. Ouais. Ça
merci
peut servir.
Beaucoup. Merci beaucoup. Vous adorez les histoires drôles. Vous dites même que chaque roman peut se résumer oui. par une histoire drôle.
Ou un tour de magie.
La boîte de Pandore, c'est quoi ?
Alors c'est vraiment un tour de magie qui d'ailleurs que j'appelle malgré moi dedans, qui est un tour dans lequel en fait on se pose la question est-ce que tout est écrit ou est-ce qu'on a un libre arbitre ? C'est un tour de magie dans lequel on fait qui existe réellement, dans lequel on pose les cartes qu'on croit rouges d'un côté, les cartes qu'on croit noires de notre côté, et quand on le retourne, on s'est trompé nulle part. Et quand la première fois qu'on m'a fait ce tour, j'étais sur les fesses. Je me suis dit comment est-il possible que cette personne soit débrouillée pour que je réussisse à jamais me tromper. J'ai refait le tour et je me trompais à nouveau jamais. Et donc il m'a appris ce tour, c'est un tour professionnel. Donc quand on l'apprend, il faut pas le transmettre, ou il faut, ça fait partie des spectacles, c'est pas comme les petits tours pour les enfants. Mais je me suis dit, c'est la base même de mon roman La boîte de Pandore, c'est que mon héros se demande, est-ce que son destin est déjà écrit, ou est-ce qu'il fait des choix qui peuvent changer ce qui va arriver.
Vous parlez du Mont-Saint-Michel dans ce livre?
Oui, parce que c'est un lieu magique, et c'est un lieu dans lequel jadis les druides venaient faire des cérémonies avant que les moines construisent cette église extraordinaire.
Et après les druides, ils ont reçu la visite de Vanessa Zah. Bonsoir Vanessa.
Bonsoir Philippe.
Alors Vanessa, votre GPS personnel nous embarque ce week-end au Mont-Saint-Michel pour fêter les 130 ans de celle qui est une mère pour nous tous.
Oui, celle qui a donné son nom à une institution, un restaurant, la mère Poulard, mondialement connue pour son omelette philippin.
Je vais vous dire comment j'ai connu son nom, c'est que je me souviens que le président François Mitterrand prenait parfois un hélicoptère pour aller déguster une omelette dans un restaurant. Je me dis, c'est quoi? Eh ben, c'est la mère Poulard.
Alors, la mère Poulard, c'est le titre honorifique qu'on a donné à Annette Poulard, qui était la cuisinière de l'auberge du Mont, donc à la fin du 19e, et elle avait l'habitude de servir à tous les visiteurs, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, une omelette cuite au feu de bois.
Alors elle est plus là, mais le restaurant existe toujours et son nom aussi.
Et son nom aussi. Puis quand je vous dis que c'est une institution du Mont-Saint-Michel, c'est même plus que ça. C'est tout un symbole français pour les étrangers. Ce que Paul Bocuse a très bien écrit dans le livre d'or du restaurant, la mère Poulard, c'est la France. Donc on vient des quatre coins du monde pour l'omelette et bien évidemment pour l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Hein.
Oui, mais alors est-ce qu'elle n'est pas victime de son succès? Est-ce que c'est compliqué de profiter de la magie du lieu sans la déferlante de touristes?
En effet, pas évident. Mais il y a une solution, une astuce pour profiter du mont vide. Il suffit d'y rester dormir. Alors là, vous aurez le mont rien pour vous à la tombée de la nuit quand il se vide, s'apaise, mais aussi à l'aube, avant ces vagues déferlantes de touristes, ce qui veut dire que vous serez aussi les premiers à pénétrer dans l'abbaye et à vous imprégner de ce silence si particulier, séculaire, 13 siècles d'histoire quand même. Bref, vous allez pouvoir palper l'âme du lieu. Et puis rien que le fait de dormir sur le rocher, c'est une expérience unique à vivre. On peut même dire que c'est magique, le silence, le clair de lune. Et lorsqu'il pleut, eh bien l'eau ruisselle et dévale les ruelles. D'ailleurs, je vous conseille d'emporter dans vos valises le livre La promesse de l'ange de Frédéric Lenoir, qui se déroule au Mont et qui vous emporte dans cette ambiance extrêmement mystérieuse.
Alors je vais vous dire, je ne savais même pas qu'on pouvait dormir sur le Mont-Saint-Michel. Et vous Vanessa, qu'est-ce que vous nous conseillez comme activité?
En ce moment, c'est les grandes marées. Donc il y a pas mal d'idées pour découvrir le mont autrement, il y en a pour tous les budgets. Alors si vous avez les moyens de payer 99 €, vous pouvez survoler le mont en hélicoptère pendant un petit quart d'heure. Ça vaut vraiment le coup si on a les moyens, parce qu'on peut admirer le phénomène des marées vues du ciel. Et puis si vous êtes des fondus de photos, ben, l'agence Aguila Voyage a concocté un séjour pour apprendre à photographier le mont pris par les eaux avec un photographe professionnel. Et ça vous le faites par la terre, mais aussi par les airs en survolant le site en ULM. C'est un stage de 3 jours, 3 nuits autour de 550 €. Et puis pour un budget quand même beaucoup plus raisonnable, il y a les traversées de la baie nocturne. Vous êtes accompagné d'un guide. Ça, incroyable expérience, car tous les sens sont décuplés la nuit. Si je précise accompagné d'un guide, c'est que le Mont-Saint-Michel est réputé pour avoir les marées les plus grandes d'Europe, mais aussi les plus rapides. Hein.
Mais oui, d'ailleurs, on dit que l'eau remonte à la vitesse d'un cheval au galop. Et d'ailleurs, Vanessa, je vous vois faire le nom de la tête.
Bah non, parce qu'en fait, c'est une fausse rumeur qu'on a tous en tête depuis qu'on est petit. On la doit, cette fausse rumeur, à Monsieur Victor Hugo. Un cheval galope à plus de 20 km/h. La marée, elle n'avance qu'à 10 km/h max, ce qui est déjà rapide et dangereux, d'où la nécessité d'un guide, évidemment.
Alors pour finir, quel est votre hôtel coup de cœur sur le Mont-Saint-Michel?
Eh bien, les Terrasses Poulard, c'est un petit hôtel de charme 3 étoiles et les chambres ont toujours une vue, alors soit sur l'eau ou bien sur les flèches de l'abbaye.
Merci beaucoup encore, chère Vanessa.